Bien, ben bonjour à toutes et à tous, ceux que je n'ai pas vu saluer auparavant. Alors, l'idée de parler de ce sujet-là, c'est une idée opportuniste dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est là, sans être là d'ailleurs, pour beaucoup. Et c'est quelque chose qui, cette maladie, hein, cette période que l'on traverse, au-delà de la maladie, puisque je ne vais pas vous parler, bien entendu, de la maladie en elle-même. Mais en fait, c'est l'occasion de réfléchir à ce qui pourrait arriver, en fait. Je ne sais pas, il y a des choses bizarres, mais voilà, attends, je reviens. À ce qui pourrait arriver, et ce qui va arriver vraisemblablement à l'issue de cette période. Alors, ça me rappelle aussi hein, des choses, puisque dans les années 80, début des années 80, c'était la période où je me suis installé la première fois, en fait, tout en travaillant déjà comme ça, en tout cas en commençant. Et puis, un jour, presque honteusement, je reçois un coup de fil de quelqu'un qui me demandait, mais vraiment, profil bas, hein, est-ce que vous acceptez de prendre des séropositifs? La question ne se posait même pas pour moi, donc j'ai accepté, entendu. Et je suis rentré dans cette période de cette première épidémie, à l'époque où on disait que c'était transmissible par les moustiques, par le contact, par la sueur, enfin tout un tas de choses. Et le fait d'avoir un premier patient comme ça, ben, ça en entraînait d'autres, parce qu'effectivement, à l'époque, peu de gens acceptaient de ne serait-ce que de les voir, on pourrait se les faire rentrer chez eux. Donc ça m'a amené ça m'a amené à côtoyer des gens qui étaient victimes, quelque part, d'une épidémie mondiale et aussi, dont au début, on prévoyait qu'elle allait être gigantesque. Et donc ça m'a interpellé avec ça, et c'est aussi avec cette expérience que je réfléchis à ce qui peut arriver maintenant ou ce qui se passe, ce qui est en train de se passer, tout en ayant d'énormes différences également. Mais tout ça, bien entendu, à la lecture de la voie sensorielle et de qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, pour que ça se passe différemment dans certains cas de figure. Alors, on parle beaucoup en ce moment du confinement, parce que c'est une expérience mondiale et quasiment et partagée. Le confinement, c'est une toute petite partie du problème. En fait, ce n'est pas vraiment un problème. C'est peut-être ce que j'aime appeler un révélateur, en fait. C'est une cocotte minute, le confinement. Donc, forcément, il y a plus de compensation ou plus difficilement, quoique. Mais en tout cas, c'est une situation très particulière et universelle en ce moment qui fait qu'il peut se passer des choses. Alors, je remarque énormément, énormément de propositions de prise en charge de gens autour de ce confinement, ce qui est bien. Mais aussi énormément de propositions d'activités, on va dire. Il faut remplir le vide, en fait. C'est ce que je ressens. Il y a énormément de toutes sortes, hein, et souvent très bonnes d'ailleurs, des initiatives pour remplir ce vide. Alors après, tout dépend de comment on prend cette expérience-là. Idéalement, on dit que c'est une chance pour certains de régler des choses. Beaucoup de gens ont du temps, du repos, et c'est un cadeau inestimable. Et aussi, c'est un enfer. C'est un enfer pour la plupart des gens, en fait, au niveau personnel et relationnel, parce que c'est une épreuve qui était inattendue et peu de gens étaient prêts. Et puis aussi, effectivement, tout le monde ne vit pas très confortablement dans une intimité relative. Donc, ça pose des problèmes qui sont beaucoup plus profonds et nombreux. Je pense à l'île d'à côté, hein, chez moi, à Madagascar par exemple, ou même ici dans des quartiers où très misérables, hein, encore, à Mayotte. Quand on parle de se laver les mains à des gens qui n'ont pas l'eau, leur parler en chinois, quoi. C'est des gens qui vivent à 15 sous 4 tôles. de trouver une distanciation sociale ou physique, c'est surréaliste. Et je pense que c'est la majorité du monde. On raisonne par rapport à notre petite place dans ce monde qui est une place extrêmement privilégiée. Par contre, les demandes, je pense, ou en tout cas de ce que j'ai pu en constater ou en entendre parler, sont un peu différentes. C'est-à-dire que un grand stress chasse tous les petits stress. C'est-à-dire qu'on se préoccupe moins de savoir si on a une phobie des araignées en ce moment ou de choses comme ça. Pas que ce soit pas important pour la personne, ça l'est. Mais il apparaît des choses qui étaient masquées par, justement, dans une espèce d'oignon des phobies. Il y a des phobies presque avouables, souvent dont on pourrait presque rire, etc. Et puis après, il y a des choses plus profondes dues à ce vide-là. Une anxiété beaucoup plus profonde, personnelle. Des questionnements aussi par rapport à la vie en relation, etc., familiale ou autre. Donc, c'est un monde à explorer. Il faut s'en occuper bien, s'il y a une demande, bien entendu. Encore une fois, la demande, elle devient toujours de gens qui sont quand même dans un confort relatif. Et c'est ça qui est un peu difficile quand on voit l'immensité de la souffrance partout, universelle. Par contre, j'imagine qu'il va apparaître d'autres choses à la suite de cette expérience-là et par conditionnement. Je pense qu'on va se diriger, on va voir apparaître des choses qui étaient plus discrètes, du style de la folie des microbes, évidemment, à la folie du contact. Parce que je parlais du contact la dernière fois, mais un des traumatismes importants qui va se révéler, c'est l'absence de contact. On se dirige vers une société sans contact de façon brutale et qui ne correspond pas à notre façon de vivre. Donc je pense que ces choses-là vont bouleverser énormément d'équilibre dans les mois qui viennent. Et je pense que c'est intéressant de le partager et de voir, pas de s'y préparer parce qu'on ne s'y prépare pas, mais en tout cas, il va certainement apparaître ce genre de choses. J'aimerais parler un petit peu de cette maladie, mais pas sous une forme médicale. Ce qui est particulier, très particulier, c'est qu'on nous dit que finalement presque tout le monde va l'avoir. On nous dit que ce serait même souhaitable. On nous dit que c'est bénin dans la plupart des cas. Et puis, les gens font ce qu'on leur dit. Et puis, le soir à la télé, ils voient l'enfer de la réanimation, quoi. Ils commencent à comprendre ce que c'est qu'une réanimation sous cette forme-là, hein, qui est la plus dure, hein, la forme la plus dure de réanimation, puisque c'est une mise en coma artificielle. Et puis, ils voient des films avec des tas de cadavres, des choses absolument incroyables, comme on voit quand on regarde la télé, et tout le monde regarde la télé quelque part. Et c'est, en fait, c'est cette injonction, ces injonctions paradoxales. D'ailleurs, ce côté, c'est pas grave, tu peux l'avoir, tu t'en aperçois pas, et puis de l'autre côté, t'es mort. Et ce qui est particulier dans cette maladie, par rapport à d'autres que j'ai pu côtoyer dans mes séjours à l'étranger, du style choléra ou autre, c'est que c'est un passage brutal. C'est-à-dire, je vais bien, rentrez chez vous, c'est pas grave. Vous toussez, la fièvre, rentrez chez vous. Rappelez-nous quand ce sera entièrement une aggravation. Et bien, c'est ce qui se passe dans certains cas. On rappelle quand il y a une aggravation, on part en SAMU, on est arraché. De la famille, on part dans un truc hyper sécurisé, hyper aseptisé. Et puis après, selon le cas, et assez souvent, on se retrouve anesthésié, entubé, en réanimation. Donc c'est monstrueux de brutalité ce qui arrive aux gens en ce moment-là, partout dans le monde. C'est cette transition directe avec ça, et en sachant qu'après, les grands spécialistes, d'ailleurs, réanimation, il y a à peu près 50% de gens qui s'en sortent. Et parmi les 50%, ils vont être atteints pour leur vie entière. Voilà ce qui est le schéma qui nous est proposé à propos de cette épidémie-là. Et là, à aucun moment on vous parle, je suis atterré, hein, parce que ça c'est devenu normal. On parle de statistiques, on parle de lits de réanimation, on parle de la façon de différer l'encombrement. On est complètement, mais complètement, comme jamais je l'ai vécu, dans la déshumanisation totale de tout, quoi. Je veux dire, c'est la maladie. En termes médicaux, on dit techniquer, hein, quand on met quelqu'un sur respirateur ou autre. Et là, c'est techniquer à l'extrême. Et dans la déshumanisation, je ne parle pas des professionnels de santé qui font ce qu'ils peuvent, mais de ce protocole-là que jamais nous n'avons vécu, jamais. Au pire de la plupart des épidémies, il y avait quelqu'un à côté, en fait. Et là, c'est un tel arrachement que c'est absolument terrible. Vous vous rendez bien compte que, compte tenu des informations que tout le monde a, hein, imaginez l'effet nocebo que ça représente. Imaginez l'effet nocebo, c'est-à-dire la programmation négative par rapport au vécu de la maladie, ça peut représenter, c'est phénoménal. Et pourtant, bon, c'est ce conditionnement, il est bien réel et il est pas. Pas voulu, bien entendu, mais c'est comment dire, cette absorption de l'individu dans une espèce de monstre là qui prend tout en fait et qui redonne pas grand-chose. Je vais parler d'effet nocebo, hein, on peut parler aussi en deux mots, hein, parce que là c'est vraiment très important parce que c'est au cœur de ce qui se passe. L'effet placebo. C'est bon, on a l'exemple dans ce qui se passe dans un certain endroit au sud de la France avec une molécule particulière. Imaginez, les gens sont prêts à se battre, sont prêts à se révolter pour obtenir la délivrance de ce médicament-là. On peut dire que s'ils l'ont, ils sont guéris, parce que c'est leur combat. C'est-à-dire qu'ils sont sujets. Contrairement au cas de figure précédent où ils sont complètement objets de tout et ils subissent tout, là, il arrive un truc qui se passe qui est absolument unique aussi. Une révolte, quelque chose comme ça, où les gens réclament qu'on leur administre un médicament. Il faut considérer que l'effet placebo, on en parle comme ça, enfin, quand la médecine officielle en parle, c'est presque un parasitage, ben c'est quelque chose d'extrêmement puissant, au point qu'il suffirait en soi à guérir. Ça s'est vu, je cherchais tout à l'heure des documents que je n'ai pas retrouvés malheureusement, sur des traitements du cancer avec des molécules complètement inactives. Qui se traduisent par des guérisons totales, etc. On parle de la guérison, encore une fois. On parle de ce qui stimule la guérison et qui stimule une évolution morbide. Quand on parle de la guérison, la croyance, comme je disais la dernière fois, le système de croyance est absolument essentiel. Et le fait d'être sujet, c'est-à-dire de prendre en charge son propre traitement et sa propre guérison est essentiel. Ça suppose d'être conscient, encore une fois. Donc, dans ce qu'on va voir là, si on remet ça par rapport aux gens qui vont nous contacter ou qui nous contactent déjà, parce que la demande en ce moment, c'est des gens qui ont peur d'être de malades. Et puis des gens qui commencent à être malades et qui ont peur de s'aggraver. Ce sont deux demandes essentielles concernant la maladie en elle-même. Alors, pour aller un peu plus loin, deux mots sur la relation stress et immunité, qui est bien connue depuis longtemps, dans la mesure où on a remarqué et étudié le fait que le stress provoque une baisse immunitaire qui peut être très importante. Bon, y a d'ailleurs une étude récente à l'université d'Aix-Marseille là, qui a trouvé de façon très précise comment ça fonctionnait. Vous pourrez la trouver très facilement. C'est-à-dire que les molécules, enfin les hormones de stress se mettent sur les récepteurs immunitaires, en fait, donc bloquent l'immunité. Donc c'est vraiment intéressant de voir ça, même si c'est de la recherche, hein, et on ne s'en sert pas, mais simplement. C'est comme ça marche comme ça. Après, eux, s'ils ont fait une recherche, c'est évidemment pour faire un médicament qui va bloquer les sites en question. Je vais vous raconter juste des petites histoires que j'ai rencontrées au cours de mon expérience. Monsieur qui vient me voir parce qu'il a un cancer et qui ne veut pas se soigner. Il est hyper anxieux, c'est le cas de figure qui n'est pas positif, hein, qui n'est pas favorable. Mais on travaille et puis il est parfaitement stabilisé pendant plus d'un an. C'est-à-dire pendant plus d'un an, il est parfaitement stabilisé dans son état et il vit parfaitement bien, sans évolution, etc. Et un jour, il arrive, un peu excité, il me dit... Le système de guérison qu'il a fait tenir jusqu'à présent et qui était porté par un médecin qui faisait à l'époque des conférences, etc., des formations, machin, dit la personne en question vient faire une conférence dans la ville où il habite. Donc il est effectivement il est très, très, très stimulé par ça, très, très intéressé. Donc il va y assister naturellement. Et lors du prochain rendez-vous, il est terne. C'est-à-dire je vois immédiatement qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc je l'écoute. Et il me dit, bon, vous êtes allé à la conférence naturellement, etc. Racontez-moi. Ce type-là ne m'a pas plu. Il n'est pas cohérent, il ne représente pas ce qu'il porte. Et vraiment, c'est comme si dans son esprit, ce en quoi il avait mis son effet placebo de la guérison, c'est-à-dire cette méthode-là, il ne pouvait plus y adhérer parce qu'il n'était pas en cohérence avec le personnage qu'il avait rencontré. 10 jours après, il est mort. J'étais en relation avec le professeur qui le suivait à l'hôpital, donc je l'appelle, je demande qu'est-ce qui s'est passé, etc., à votre avis. Et il a prononcé des mots qui me font encore frissonner là maintenant. Il est mort de peur. Il est mort de peur. C'est incroyable de la part d'un professeur en particulier. Et c'est ce qui s'est réalisé, c'est-à-dire qu'en un instant, son équilibre immunitaire qu'il avait construit pendant des mois, un an, plus d'un an, etc., en essayant d'être dans la croyance que ce qu'il faisait était bon pour lui, s'est écroulé en un instant. Et donc, ben voilà, on dit d'ailleurs une chute, on dit une chute immunitaire, on dit pas souvent une baisse, on dit une chute. C'est-à-dire que ça tombe direct, ça tombe très brutalement. Et à ce moment-là, la pathologie prend le dessus, en fait. Un autre exemple aussi de ma clientèle, hein, il y a longtemps. Une jeune femme qui a tout quitté pour suivre l'homme de sa vie qu'elle a rencontré. Elle est étrangère, ils se sont rencontrés très loin de France. Elle a tout quitté pour lui, etc., etc. C'est le grand amour. Il rentre, il s'installe, etc. Lui, c'est un peu un notable, on va dire, du village. Et puis, il y a une fête, une grosse fête de village, etc. Et comme elle dit, c'est mal conduit. C'est un de ces mots. C'est-à-dire que, bon, sans doute qu'il avait trop bu et qu'il s'est effectivement conduit de façon particulière avec d'autres femmes. Ça a été un choc. Elle me dit, j'étais pétrifiée. Les mots ont leur importance toujours lorsqu'ils parlent du corps. J'étais pétrifiée. Elle décide de rentrer à la maison, à pied, et elle me dit, en rentrant, j'ai remarqué que je boitais. Remarque, elle boite. Donc elle rentre chez elle. En très peu de temps, elle fait une polyarthrite rhumatoïde foudroyante. Foudroyante. Donc là aussi, voilà quoi. Un événement qui fait. Qui remet en cause un équilibre, tout simplement, quel qu'il soit après tout. Mais ça peut être pas grand-chose, en fait. C'est pas des gens qui sont allés à la guerre, là. C'est pas des gens qui ont subi des traumatismes, au sens où on l'entend, énorme. Tout est question de ressenti. Tout est question de ressenti. Et ça se retraduit, effectivement, par un ressenti dans le corps, toujours. Alors, dans le cadre de ce qui nous préoccupe ce soir, c'est un truc que j'ai eu à présent à mon esprit à chaque fois que j'ai une personne qui est dans une maladie grave. C'est à tout prix éviter la panique. À tout prix éviter la panique. Et ça peut arriver n'importe quand, en fait. S'occuper de quelqu'un qui a une maladie grave, c'est comme surveiller le lait sur le feu, quoi. Il faut être extrêmement attentif. Et je pense qu'il faut laisser de façon excessive la porte ouverte, en tout cas la relation téléphonique autre, dans les cas. Parce que c'est... Une fois le processus engagé, une fois la panique déclenchée, on va dire, c'est irrattrapable. Il faut juste, c'est sur un fil. Et donc, il est vraiment important de rester le temps qu'il faut dans l'équilibre qui va amener à une consolidation, en fait. Et je pense à ces gens-là qui, avec le Covid, sont embarqués par le SAMU, là. Et qui arrivent et qui sont complètement pris en charge d'une façon incroyable, quoi. Et imaginez, essayons d'imaginer ce que le ressenti que ça représente, quoi. C'est un truc absolument dingue. C'est quelque chose qui je dis pas que ça va générer, puisque là après on passe dans une autre chose, c'est pas une aggravation, on y est déjà dans l'aggravation, mais le potentiel de guérison il est annihilé, il est complètement étouffé, d'autant plus qu'après il va y avoir une anesthésie. Donc soyons peut-être attentifs à ça. Je parle pour on prend le prétexte, en fait, et je prends le prétexte du Covid pour parler d'autres choses, c'est-à-dire de plein d'autres choses, de toutes les autres maladies, on va dire. Celle-ci est particulière parce qu'elle est dans la violence. Elle est très significative, quoi. Elle est très très excessive. Donc en plus, elle nous permet d'être dans la réalité, en fait, la réalité extrême. Mais là, encore une fois, on a peu de mode d'action, on va dire, à part l'accompagnement avant si on nous le demande, ou si c'est quelqu'un de proche, etc. Mais il faut quand même envisager d'ores et déjà, c'est encore tôt pour nous, hein, parce que les gens ils sortent juste là maintenant, au moment où on parle, ils commencent à sortir de l'hôpital de réanimation, après ils vont dans des centres, etc., etc. Chez nous, ici à La Réunion, ça n'a pas commencé réellement. Prévoit peut-être que ça démarrera dans 2-3 semaines. Mais Il est pas inutile d'envisager les conséquences que tout ça va avoir sur les gens que nous serons peut-être amenés à rencontrer dans quelques mois. Parmi eux, il va y avoir immanquablement les soignants. Les soignants qui ont été, dans certains cas, dans certains endroits en tout cas, en surpression, en surrégime pendant des semaines, sans possibilité d'évacuer quoi que ce soit. Et cette surpression-là, elle se paye toujours. C'est-à-dire que après une surpression, il y a toujours une dépression. Ne serait-ce que pour équilibrer le processus global, en fait. Quand on a été longtemps au-dessus, il est normal qu'on soit. On peut appeler ça une décompression, mais puisqu'on a dit, on dit une surpression, on peut dire une dépression, on peut dire autre chose aussi, ça n'a pas d'importance. En tout cas, c'est un grand vide après. Et ce grand vide-là, il inquiète beaucoup en général. Parce qu'on dit, si tu n'es pas bien, si tu es fatigué, si tu es mal, etc., c'est pas normal d'être comme ça. Or, c'est ce qui va permettre de rééquilibrer. Je dis toujours, par rapport à un état normal, quand on a été en surpression pendant longtemps, la superficie de la zone en surpression, elle doit être équilibrée par la zone en dépression, de façon géométrique. Parce que c'est comme ça que ça va. Ça signifie que ouais, ça veut dire que quand on monte très haut et que la chute se fait, si elle n'est pas autorisée ou si elle n'est pas acceptable, au lieu d'avoir une grande chute profonde et rapide, on va avoir une chute modérée comme ça et avec des états de mal-être qui vont durer extrêmement longtemps. Et ça, c'est le corps qui demande ça. C'est simplement, en termes neurologiques, on pourra dire sympathicotonie, vagotonie. C'est l'équilibre. Si on a été en sympathicotonie pendant un mois sans arrêt, ben, il est normal d'être en vagotonie aussi, ne serait-ce que parce que c'est un cycle journalier hein, de sympathicotonie, vagotonie, qu'on retrouve en concentré, en fait, quelque part. Et puis ces soignants-là, dans l'enchaînement d'événements traumatiques, parce qu'il n'y a pas que de, y a pas que de la, des y a pas que des actes techniques, il y a aussi des ressentis quand on est soignant dans des services comme ça. Il n'y a pas eu de régulation, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps, je veux dire, on s'arrête juste pour dormir, manger et puis on repart. Donc, c'est ce qu'on voit hein, dans ces services-là de réanimation. Donc, c'est une accumulation d'événements traumatiques, une accumulation qui n'est pas régulée. Donc, à un moment donné, il va falloir faire quelque chose, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Alors, dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on peut proposer? Ne suis pas un partisan de partir trop dans le verbiage, etc. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Il y a une surpression émotionnelle qui est considérable. Il faut lever la soupape, c'est-à-dire autoriser vraiment qu'il se passe quelque chose. Ou il faut qu'il y ait un espace, en tout cas, où la personne puisse vraiment lâcher dans l'émotionnel pur, qui n'a pas de sens particulier, qui est juste une vidange, quoi. Une soupape, il faut que ça sorte. Parce que tant que c'est pas sorti, on ne peut pas faire autre chose. On est parasité par ça. Cette énergie-là, il faut qu'elle soit dissipée, il faut qu'elle soit dispersée. Donc il faut accepter ou faire en sorte que les gens, de leur côté, peu importe, passent par cette phase d'évacuation excessive et violente. Après, si on est sollicité pour ça, et que la personne a. Ayant, on va dire, évacué le trop-plein, se retrouve encore dans des difficultés. Il y a une façon de faire que j'aime bien, c'est de leur demander hein, quels ont été les moments les plus difficiles pour vous durant cette période-là. Racontez-moi. Racontez-moi. Donc, il y a les gens racontent, et là, il faut être très attentif à la moindre petit signe d'émotion telle qu'on l'entend, c'est-à-dire de quelque chose dans le corps. Pendant que la personne parle, des signes qui ne sont pas forcément des signes verbaux, des signes au niveau du visage, des mains, qui trahissent un trouble. Et là, c'est que la porte est ouverte pour autre chose. C'est-à-dire, là, on peut demander, allez, maintenant, qu'est-ce que vous ressentez là maintenant? Et on part dans le processus que vous connaissez bien. D'accord? Mais de façon indirecte, c'est-à-dire tranquillement. Je n'ai pas à vous dire, ah, vous avez une situation, machin. Non, racontez-moi ce qui a été difficile. Parce qu'on a besoin d'humains. Et les personnes qui sont là, ouais. Bien sûr qu'on va y arriver très rapidement parce que c'est là, ils savent très bien qu'il a fallu débrancher quelqu'un ou un jeune est mort, etc., etc. Il y a des cas de figure. Il y a des choses qui, de toute façon, ont touché plus que d'autres dans cette période-là. Et à ce moment, on peut aborder le nettoyage tranquillement. En laissant aller comme ça et en revenant sur une période longue. Hein. Donc, les événements vont se suivre. C'est pas en 3 minutes, ça va se passer. C'est en plusieurs séances parce il faut vraiment respecter ça. Et ça me semble être c'est mon avis. Hein. Après, on en parlera tout à l'heure, mais une façon de procéder qui est assez respectueuse et pour l'avoir expérimenté dans d'autres circonstances. Avec des soignants qui est assez porteuse, assez efficace. Le deuxième cas de figure, la deuxième chose qui peut être une conséquence, deuxième conséquence de cette période-là peut concerner les proches. Les proches à qui on a appris un membre. De façon très brutale, et puis après c'est fini. On ne peut plus le voir, on ne peut plus le toucher, on ne peut plus. On ne sait pas ce qui va se passer. Et puis ça rentre dans une spirale où il y a ce... Je parle des cas graves évidemment, hein. Où il va être, où il va être en respirateur. On ne parle que de ça, hein, de toute façon, en respirateur. J'ai jamais entendu parler autant de respirateurs que depuis un mois. Après, on pourra en parler. Mais. Voilà, c'est d'une violence phénoménale. Et à l'issue de ça, il y a la mort, parfois, souvent. Une mort sans corps, une mort sans accompagnement, une mort sans sépulture, une mort sans réunion. Donc, vous avez tout ce que vous pouvez imaginer de pire dans ce que toutes les civilisations ont construit depuis des millénaires, des millions d'années autour de la mort, cette ritualisation du deuil, tout ça, c'est annihilé, c'est interdit. Donc, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, c'est-à-dire que le deuil est absolument impossible. Le deuil normal, je veux dire, est totalement impossible. Et là aussi, on ne peut pas régler le problème comme ça. Le deuil, ça peut se faire sur des années. Je ne dis pas que c'est obligatoire, mais c'est tellement compliqué de faire un deuil que je qualifie d'injuste, un deuil injuste dans des situations telles que je vous ai décrites, que là aussi, il faut écouter. Certains pensent, Roustan le dit d'ailleurs, il dit la seule situation où j'écoute les gens et où je les écoute plusieurs fois raconter la même chose, c'est pour les deuils. C'est-à-dire que les gens ont besoin de rentrer dans une réalité, donc ils ont besoin de répétition, ils ont besoin de rentrer dedans, jusqu'à un certain point. Pareil, après, il y a toujours cette histoire d'accumulation émotionnelle qu'il faudra bien gérer à un moment donné, parce que c'est interdit de pleurer, c'est interdit de manifester, et puis il n'y a pas de corps, il n'y a pas de réunion de famille pour le faire. Enfin, je veux dire, c'est un truc complètement dingue. Donc, cette accumulation, il va bien falloir la permettre qu'elle se résolve d'une façon ou d'une autre. Et puis après, Il peut y avoir plusieurs façons de faire selon la personne, bien entendu, mais on peut parler du choc et à ce moment-là prendre dans le récit, pareil, une fois vraiment apaisé, hein, dans le récit apaisé, c'est-à-dire en second temps, l'observation des signes qui trahissent une émotion profonde, qu'il faudra bien entendu suivre. Ça c'est un truc qui peut se faire. Et puis après, considérant que on peut recréer la situation, on peut recréer une personne, on peut recréer une situation avec une personne dans un état particulier, en imagination, tout simplement. Donc, on peut recréer en imagination la présence du défunt. On peut lui faire parler en imagination au défunt, lui faire dire ce qui n'a pas été dit, de façon à recréer l'intimité des derniers moments qui n'a pas eu lieu. De façon à recréer, comment dire, la relation, ouais, enfin de chronologiquement, on va dire presque, revivre les différentes phases. Je ne sais pas si vous connaissez Elisabeth Kübler-Ross qui a étudié ça. Je ne dis pas que toutes les phases du deuil sont forcément dans l'or, mais elle cite le déni, hein, dans l'or, le déni, la colère, le marchandage, la dépression, l'acceptation. C'est les deuils qu'elle a, les phases du deuil qu'elle a mis en évidence. Et après, il va y avoir encore une fois, de façon à la mode un peu Jodorowsky, si vous connaissez, de remettre en scène un enterrement qui n'a pas eu lieu avec la famille, de remettre en scène, mais beaucoup plus tard, quand ce sera autorisé, une réunion, une réunion de deuil, en fait. Parce que c'est important et parce qu'on est des êtres sociaux et ces choses-là se visent en commun. Donc ça peut être des pistes aussi de travail, hein, même si c'est un peu éloigné de ce qu'on fait, mais pas tant que ça. Et voilà, à peu près ce que je voulais vous dire sur les deuils. Et maintenant, je voulais parler aussi des gens qui sont survivants, quelque part. Des survivants, là je parle des survivants qui ont été en réa, hein. Et pas des gens qui ont eu un Covid bénin où ils n'ont pas eu de grosses séquelles. On ne sait pas. Par expérience, parce que j'ai travaillé dans des services comme ça, post-réa, post-réanimation, il peut tout se produire. Parce qu'on ne sait pas quel a été le ressenti en fait de la personne réellement. Donc il faut commencer par savoir où elle en est en fait, savoir s'il y a du vide, s'il y a de la confusion, s'il y a de la résistance. Je parle corporellement, hein, c'est-à-dire en ressenti, tel que elles vont le dire d'ailleurs. Est-ce qu'elles sont dans la révolte, enfin, dans toutes sortes, tout est possible. Et aussi parfois, et en particulier, j'ai entendu dire qu'il y avait pas mal de témoignages de EMI ou NDE, comme on disait avant, d'expériences proches de la mort, évidemment. Ces gens-là, par contre, sont les survivants qui vont survivre, c'est-à-dire ce sont les survivants qui sont revenus, en tout cas dans leur esprit, et qui ont balayé, hein, toutes les problématiques de leur vie. Mais quoi qu'il en soit, dans ces post-réals, hein, qui mettent des mois, hein, à récupérer, parfois des années, il faut aussi être du coup par coup, ça, toujours sur le même principe. La sensation, c'est ce qui donne vie, hein, et quand je disais Je vais faire un mauvais jeu de mots, mais en même temps, parce qu'on s'adresse à ce contexte-là, prendre quelqu'un en soin comme ça, c'est le réanimer. Ça veut dire réanimer, c'est de redonner mouvement. Réanimer. Et donc, voilà, ces gens qui sortent de la réanimation passive, où en fait on les a réanimés, ils ont besoin d'être réanimés, c'est-à-dire de reprendre vie, de reprendre le mouvement de la vie. Et là, dans la pratique, c'est aussi de la présence et c'est aussi de l'accompagnement dans ce qu'ils ressentent, y compris quand c'est le chaos, parce que ça peut être un chaos énorme à la sortie de la réanimation, y compris quand c'est le vide, c'est-à-dire où il semble qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a toujours ça, il y a toujours ce besoin de réunifier, en fait, de remettre ensemble ce qui a été totalement explosé pendant cette expérience-là. C'est ce qui est présent pour la personne qui peut nous guider. C'est simplement ce qui est présent pour la personne. C'est-à-dire, il n'y a pas à avoir la moindre intention d'aller dans quelque direction que ce soit. C'est vraiment ben bon, comme je vous l'ai dit, et pour moi c'est comme ça de toute façon, bon, quel que soit le cas de figure, ça ne change pas beaucoup. Mais le processus de rentrer dedans et de laisser faire ce chemin sensoriel et de régulation forcément. C'est d'une puissance infinie, c'est quelque chose qui est très puissant. C'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de faire chez des comateux, sans aucune réponse évidemment, mais simplement dans la présence forte et parfaitement neutre en fait. Vous savez qu'il se passe des choses dans cette période-là, peut-être même encore plus, puisque c'est en fait un comateux, c'est quelqu'un qui est souvent, pas toujours, mais dans la médecine actuelle, en tout cas, mis en coma artificiel, comme on dit, hein, soit pour des raisons de douleurs intenses ou de problèmes tels qu'on les rencontre actuellement. Mais par contre, on a en anesthésie la motricité, en anesthésie, provoque un sommeil artificiel, mais le reste fonctionnel, et en particulier les perceptions sont bien réelles, puisque beaucoup de gens sortis du coma décrivent ce qu'on leur a fait, ce qu'ils ont entendu, etc. C'est donc qu'il y a une que le système nerveux, un certain système nerveux, est encore opérationnel. Donc voilà ce que je voulais vous dire en fait. Donc c'est un petit peu bref, peut-être un peu décousu, parce que c'est en même temps dans du pseudo virtuel, c'est-à-dire que c'est ce que je pressens en fait. Voilà. J'avais envie de partager d'ailleurs et de réfléchir avec vous à ce sujet-là. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près dit ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre avec plaisir.
Donc, n'hésitez pas à enlever votre micro. Oui, Sylvie?
Moi, ce que je rajouterais, je suis tout à fait d'accord avec déjà ce que je perçois dans mes accompagnements actuels. Ce que je perçois aussi, c'est le sens. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on confine, qu'on met en quarantaine des gens qui ne sont pas malades, quoi. Avant, on mettait en quarantaine les gens qui étaient malades. Là, on a tous été mis en quarantaine. Et c'est aussi Et puis pareil, on ne peut pas faire de rite. Et ce manque de sens aussi, comment redonner du sens, remettre du mouvement dans le sens, enfin dans le sens de sa vie, de quelque chose d'existentiel, quoi.
Tout le monde le dit et le pressent, ce ne sera pas pareil après. Parce que c'est un réel choc pour tout le monde, quoi. Ce n'est pas juste comme on essaie de nous faire croire en plaisantant à moitié, alors qu'est-ce que tu fais, machin, et les gamins, et ci et là. Non, c'est quand même quelque chose de très profond. C'est c'est un arrêt pour les gens qui dont rien ne justifie à ce qu'ils soient dans cette situation. C'est un arrêt brutal, quoi. Et effectivement, après, on peut parler de l'après, mais je ne sais pas, ça c'est encore un autre débat. Quoique, à mon sens, la meilleure façon de ne pas se tromper pour l'après, c'est de le sentir. Mais on peut inviter aussi les gens à sentir. Il va y avoir énormément de bouleversements. Mais bon, là, c'est un autre niveau. Mais en même temps, comme je vous dis, la meilleure façon de ne pas se tromper, c'est de se sentir. Sortir de la contrainte du confinement pour laisser émerger quelque chose dont peut-être on ne connaît rien et qui peut-être va être possible, parce qu'il va y avoir un tel redémarrage pour tout le monde que ben ouais, à ce moment-là on peut aussi repartir dans un autre sens qui a du sens, justement. Et la question du sens, c'est le même mot, hein, l'essence, le sens, c'est pas par hasard. Ce qui a du sens, c'est ce que l'on ressent. On peut faire des choses intéressantes avec ça, enfin, pour soi-même, mais aussi pour les gens qui se trouvent complètement dans le trouble, quoi, dans la confusion.
Alors, tu as une question par écrite d'Emeline qui demande « Les perceptions sont présentes dans le coma, est-ce que vous pouvez développer ?»
Développer, pas plus que ça, puisque comment on sait que les perceptions sont présentes dans le coma? Par le récit des gens qui en sortent. Il n'y a pas d'a priori. Je sais que moi, j'ai été longtemps en neurochirurgie, il y avait des, je me rappelle d'un jeune qui était dans le coma des mois et des mois, et chaque jour sa mère, ses amis venaient chaque jour lui parler, chaque jour le toucher. Quand il n'était pas là, il y avait des enregistrements, et un beau jour ce gars il s'est réveillé comme s'il se réveillait d'une sieste, quoi. Ahurissant, personne n'a rien compris. Deux jours après, il joue au jeu sec, et il a parfaitement raconté tout ce qu'il avait perçu pendant cette période-là. Il n'y avait pas eu de coupure, en fait, sensorielle, je veux dire. Il était vivant, quoi, et il a récupéré de façon absolument incroyable. Et bon, là, on en parle, je ne sais pas où ça en est en ce moment, dans ces milieux-là, mais effectivement, c'est extrêmement, extrêmement important. Mais on ne sait ce qui se passe et ce que la personne ressent que parce qu'elle nous raconte à la sortie de ce coma. Si toutefois, c'est dans sa mémoire. Mais par contre, ça pourrait revenir. Est-ce que c'est utile? Je ne sais pas. Je pense qu'il ne faut pas forcer les choses. Si ça apparaît, les gens sont capables de dire ce qu'ils ont ressenti, ben, je pense qu'il faut le prendre comme ça, mais pas la peine de chercher à déboucher les choses si elles ne sont pas là.
Je poserais bien une autre question. Par rapport au... Quand une personne arrive, par exemple un soignant qui a, comme on dit, la coupe pleine, plutôt que de commencer par un truc, est-ce que toi, tu lui dis simplement de « asseyez-vous, comment vous sentez ?» Et puis, voilà, ça fait quoi dans votre corps? De commencer par tout de suite, là, maintenant, comment c'est? Comment tu fais?
J'ai du mal à faire comme ça. Parce que c'est introspectif. C'est presque... c'est lui demander quelque chose alors qu'il n'y a rien à lui demander. À cette phase-là, il n'y a qu'à l'écouter, quoi. C'est pour ça que je te dis, c'est phénoménal. On peut le retrouver dans des tas d'autres situations. Hein, mais quand il y a une surpression émotionnelle gigantesque qui a été bâillonnée pendant longtemps, ça peut être plein. Prenez ça pour plein de choses à la fois. Si on permet que ça sorte, si on autorise simplement, on autorise. Si c'est là, hein. Ben, après, on peut aller beaucoup plus facilement dans des choses précises. Imagine quelqu'un qui arrive dans cet état-là, mais de lui demander, mais en elle, c'est un chaos sensoriel. C'est un truc, c'est une bombe atomique, quoi. C'est un truc gigantesque en termes de sensations. Alors que là, quand on l'interroge, on va chercher plutôt des sensations beaucoup plus fines qui ne peuvent pas être appréhendées dans une situation d'orage. J'ai toujours considéré que la voix sensorielle, ou peu importe le nom qu'on y met, était une approche d'urgence. C'est une approche d'urgence. Je pense que quand on est en présence de quelqu'un qui est en plein truc comme ça, on peut être très utile, mais à condition de laisser passer le gros orage, le gros orage qui arrive. S'il est là, hein, encore une fois, hein, d'arriver à vider pour pouvoir accéder à un truc où déjà la personne va pouvoir s'exprimer, parce que vous avez des gens qui sont tellement mal qu'ils arrivent chez vous, ils sont pas encore assis, qu'ils sont déjà en train de pleurer, en train de crier, en train de etc. Parce que c'est l'espace où on leur autorise ça. C'est pas une finalité. Ce n'est pas une finalité. Comme en bioénergie ou autre, où on va faire crier, taper, c'est de la soupape. La soupape, si elle est là, il faut la laisser parce qu'on ne peut pas faire autre chose sereinement tant qu'on est parasité par cette énorme masse d'émotions. Olivier, je te disais, quand c'est une urgence, bon, ça revient au bababa, ça revient comme ça. Quand les gens sont dans un état de choc, on ne peut pas leur demander des choses aussi précises, tu vois. Mais par contre, c'est là. Comme je l'ai dit, hein, rien à faire de se comprendre ce qui se passe. Une fois, j'ai fait une séance, j'étais au Maroc. Un gars, tiens, c'était marrant ça. Quelqu'un qu'on m'amène à Marrakech, un photographe de mode, hein, et puis son père meurt pendant qu'il est en train de faire un shooting très 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 haut gamme, etc. Donc il ne peut absolument pas partir, quoi. C'est un Anglais, non seulement un Anglais mais un Écossais. Donc je le reçois et il n'a pas, dès qu'il a été chez moi, mais il a pleuré, il a parlé, il a dit des trucs. Je n'ai absolument rien compris, quoi. Je n'ai rien compris de ce qui s'est passé. Je l'ai gardé le temps qu'il fallait jusqu'à ce que ça se calme. Puis, il est parti, mais il est parti, il avait la banane, quoi. Il était léger. Il m'a fait des remerciements. Et des mois après, encore, par l'intermédiaire de gens, il me remerciait encore de ce que j'avais fait pour lui. J'avais rien fait, mais j'avais quand même permis qu'il se passe quelque chose. Parce que cet énorme poids qu'il avait en lui, c'est comme s'il m'avait fait des bababas interminables. Il a peut-être, peu importe, et peut-être que même il était plus à l'aise parce qu'il savait quelque part que je ne comprenais pas avec son accent, je n'arrivais pas à saisir ce qu'il disait. Peut-être qu'il a dit des choses qu'il n'aurait pas dit autrement. Mais en tout cas, voilà, là il y a une réelle libération qui parfois suffit dans une urgence. Et là, c'en était une. Par la suite, on peut aborder, si c'est nécessaire, autre chose, bien entendu. Et c'est nécessaire.
Oui, d'accord. Ok, bah écoute, merci. Je vais essayer ça aussi, parce que souvent, quand quelqu'un va pas bien, on commence à poser vous. J'écoute son mal-être et puis je lui demande aussi de me raconter ce qui se passe dans son corps en même temps, quoi.
Oui, mais là, attention, là, je te parle d'état de choc. Hein.
Oui, d'état.
Je te parle pas de consultation normale. Oui. Je te parle de gens qui viennent, qui sont en réel état de choc. Hein, attention, hein. C'est pas j'ai rendez-vous 3 semaines à l'avance et j'arrive. Non, c'est les gens qui te téléphonent. Il faut les prendre tout de suite, parce que tu vois, c'est autre chose. Ou alors suite à un événement, etc.
D'accord.
Je te dis, c'est l'urgence. C'est un truc d'urgence. Et c'est un truc d'urgence étonnant, comparativement à tous les gens qui traitent le syndrome post-traumatique, qui font parler, et qui parlent aussi, là, on n'est plus du tout dans le même registre. C'est-à-dire, l'expression corporelle, parce qu'une émotion, c'est corporelle, on la laisse se dérouler sans verbalisation et sans... Il n'y a rien d'intellectuel là-dedans, quoi. On est dans l'absolu archaïque, quoi, tu vois, de la douleur. Vous voulez que je vous réanime ? Oui, pardon. Je n'entends pas.
Est-ce que là, vous m'entendez ?
Voilà, là, c'est bon.
Oui, Didier, bonjour. Je ne sais pas si tu te souviens, j'ai fait la formation avec toi au tout début à Saint-Péré, à Ardèche. Voilà. Oui. Ce que je veux dire, c'est que pour revenir là sur le coma, en fait, il y a 17 ans, moi, j'ai été plongée dans un coma artificiel, non pas à cause du Covid, mais à cause d'un grave accident de la route, mais nous étions à l'étranger. Et sans doute pour me soigner davantage, on m'avait placée dans ce coma artificiel où j'ai eu, je voulais donc donner des précisions, là je crois que c'est Emmeline qui demandait les perceptions, où j'ai eu donc des manifestations un peu bizarres. Donc effectivement, à un moment, je me suis crue au ciel, puis au paradis, puis bon voilà. Et j'ai vu aussi des choses au niveau de la lumière et tout. Mais je me sentais tellement bien que je ne souhaitais pas forcément sortir de cet état, bien que ce soit inconscient. Hein, maintenant, je peux le dire comme cela, mais j'étais bien dans cet état. Et c'est mon mari qui, je dis bien, c'était à l'étranger, donc il ne pouvait pas parler la langue, mais il était autorisé à me voir quelques heures, quelques minutes par jour. Et il me massait, je me souviens qu'il me massait la plante des pieds parce que j'étais fracassée par le corps, il ne pouvait pas me toucher et ailleurs. Et je me souviens vraiment de cette empreinte au niveau des pieds qui m'a sans doute fait ressurgir. Et puis à un moment, j'ai entendu qu'il prononçait le nom de mes enfants. Donc c'est à ce moment-là que... Je me suis réveillée, quoi, mais comme s'il ne s'était rien passé non plus, sauf que bon, j'avais multiples fractures, bien sûr, et traumatisme crânien et puis pneumothorax, mais je suis revenue à la vie, quoi. Mais je voulais dire que quand on est dans cet état de coma artificiel, en tout cas pour moi, j'ai eu cette expérience imminente là avec la mort où ça a été un peu inédit comme situation, mais je ressentais, et c'était une période assez douce pour moi, puisque je me sentais glisser, mais sans avoir le désir de revenir à la vie avec ses soucis, mais c'est par le contact physique que mon mari a fait, et puis parce que j'ai entendu le nom de mes garçons, que j'ai été réveillée, je me suis réveillée comme ça, voilà, je voulais dire, au niveau du coma.
Juste une question, est-ce que tu as ressenti que ta vie était différente après ?
Ah ben, j'étais en pleine, plutôt en dépression, mais après la vie était belle, je me suis complètement accrochée encore parce que j'étais vraiment traumatisée et puis j'avais des fractures, donc il a fallu du temps pour que je revienne physiquement. J'ai été transportée en avion en France, mais après, ma vie a complètement été bouleversée, oui, tout à fait. Les petits détails étaient grains de sable et j'ai vraiment redonné du sens à la vie.
Oui. C'est ce que je voulais entendre parce que c'est un point commun entre tous les gens qui reviennent d'une expérience comme la tienne. Et il semblerait, hein, d'après quelques informations, qu'il y en ait beaucoup dans la situation où on est. Ces gens-là, ils n'ont pas beaucoup besoin de quoi que ce soit, en fait. Il s'est passé tellement de choses, il s'est passé quelque chose d'extrêmement puissant à l'intérieur d'eux qui fait que ils sont complètement, complètement dans la vie après. Et ils ont plus aucune souffrance, etc. C'est comme il y avait une espèce de nettoyage extrême qui leur fait voir les choses de façon totalement différente. Si ça vous intéresse, il y a un vieux livre aussi qui s'appelle La Source Noire. De Patrice Van Hersel qui a dû sortir à l'époque où je m'intéressais à tout ça, c'est-à-dire dans les années 80, et voilà, qui est une enquête un peu journalistique sur tout ce qui, à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup des NDE, et pourtant c'est de plus en plus fréquent parce que il est vrai qu'on utilise beaucoup le coma artificiel maintenant. Et que ça, c'est un facteur intéressant. Donc ça aussi, vous allez peut-être le voir. Et ces gens-là, à ce moment-là, ils ont juste besoin d'être un peu encadrés. Et par contre, j'ai eu
des moments d'oubli, beaucoup d'amnésie, mais ça se reconstituait après comme un puzzle. Et j'avais aussi écrit, de là où j'étais, j'avais écrit à mon histoire plusieurs fois, je l'ai écrit sur papier. Et je trouve que ça m'a beaucoup aidé à remonter et à me remettre en vie, quoi.
Ça, ce sont les conséquences de l'anesthésie, en fait, ce qu'on a pris comme dose de produit.
Il y a des livres de Jean-Jacques Charbonnier aussi.
Oui.
Intéressant. Le médecin et l'au-delà, ou la médecine et l'au-delà.
Tout à fait. On ne peut pas ignorer ça dans la période qu'on traverse. Parce que ça va rester, je ne sais pas. Les proportions, on les saura peut-être un jour, mais peu importe, c'est quelque chose qui va exister.
Ben c'est mieux d'être informé.
Absolument.
C'est Laurence, bonsoir. J'ai envie de rebondir sur les familles, en fait, parce que j'observe derrière mon petit écran plein de comportements, plein de gens très différents autour de moi. Je perçois comme une forme de déni même de la part de tous nos modes de fonctionnement psychique, émotionnel, et je vois du coup des comportements addictifs par exemple qui se mettent en place avec la nourriture, avec l'alcool, avec plein de choses. Déjà juste ça, ça me saute aux yeux. Et puis forcément, je vois des personnes qui commencent à être de près ou de loin concernées par le Covid. La semaine dernière, malheureusement, j'ai perdu une connaissance, on va dire, le compagnon d'une copine à moi. Et du coup, je m'interroge parce qu'elle s'est mise en off, elle ne parle pas. La cérémonie, du coup, il n'y en a pas vraiment eu. Ça a été une crémation et il y a quelque chose qui sera prévu après, plus tard, on ne sait pas quand. Donc, je rebondis là-dessus. Je m'interroge du coup sur l'accompagnement. On a parlé beaucoup des soignants, on parle des gens qui vont vivre la maladie, peut-être même à un moment donné se retrouver sous respirateur. Mais toutes ces familles avec le deuil, avec la perte,
C'est ce que je te disais tout à l'heure, ce que j'ai abordé, la question du deuil, c'est essentiel parce que je pense que ça va être la plus grande souffrance. Ne serait-ce que numériquement, parce que pour un mort, il y a peut-être 10 ou 20 personnes qui sont impactées. Donc, il va y avoir une épidémie de deuils non faits, en fait. Et ces deuils-là, il y a plusieurs... Là, tu es dans ce que tu me dis, ça correspondrait pas au déni, mais à la stupeur, en fait. Il y a le choc primaire, hein. Où on ne sait pas ce qui se passe, quoi, parce qu'il n'y a pas de réalité, encore une fois, quoi. Encore une fois, on a ritualisé les sépultures depuis des millénaires, et là, il y a tout vol en éclat, quoi. C'est absolument terrible, terrible. Donc, la réponse, je ne l'ai pas formellement parce que c'est individuel, mais on ne peut pas échapper à reprendre complètement la question du deuil, là où elle a été interrompue, et dans un accompagnement qui va être certainement assez long. Et encore une fois, ce qui rendrait les choses plus rapides, c'est la possibilité de passer par le corps. C'est là où ça nous concerne directement. Mais après, il y aura de tas de choses qui se remettront dans comment dire, j'étais à Madagascar, j'ai vécu il y a 5 ans à Madagascar là, avant de venir ici. Il y a la cérémonie du retournement des morts, je ne sais pas si vous connaissez, mais on enterre les morts, pas du tout dans une énorme fête déjà, hein, un truc. Donc on les met dans ce qu'on appelle un amba, une pièce d'étoffe précieuse. Et puis après, on les porte au caveau, hein, enfin, ouais, qui est énorme. Hein, très souvent, c'est bien mieux que leur maison. Et après, c'est le devin ou le médium qui va, à un moment donné, au bout de X années, décider qu'il faut aller rendre visite aux morts. Et on appelle ça le retournement des morts. C'est-à-dire le sortir du tombeau, l'enlever de son linge, le laver les os, les remettre dans un linge propre, etc. Tout ça dans une fête qui dure plusieurs jours, dans la joie vraiment, hein, dans un truc qui n'est pas du tout dans la tristesse. Voilà, c'est la façon de faire le deuil. C'est-à-dire que dans cette tradition, les morts ne sont pas morts de toute façon. Donc on s'en occupe comme des ancêtres en fait.
Nous, on
mais
pas
pour en revenir à.
C'est bon. Ça moi qui m'interroge parce que je disais nous on n'a pas la même culture du coup pour beaucoup de personnes en France en tout cas. Et en France, après, je sais pas, tout le monde n'est peut-être pas en France pour le coup, soit. Cette coutume me parle, je m'intéresse beaucoup justement à ce qui se passe ailleurs aussi, c'est intéressant, mais du coup, justement, les croyances et les cultures haines, ça fait partie du rituel quelque part. Et là, du coup, nous, on se retrouve avec, en fonction des croyances religieuses ou pas religieuses d'ailleurs, chamboulées, c'est.
Écoute, là, ça, on sort du cadre strict de notre intervention, on va dire, en termes sensoriels, mais on peut faire beaucoup de choses. On peut accompagner, comme je disais tout à l'heure, à remettre en relation, à repermettre de parler au défunt, de lui écrire, etc. On peut faire un certain nombre de choses. Après c'est la re-ritualisation. J'ai parlé de Jodorowsky, hein, Alexandre Jodorowsky. Qui est un peu dans cette démarche-là de mettre en scène en fait les choses pour les redonner vie en fait quelque part. Et il faut qu'il y ait un acte en tout cas. Ça passe par un acte. Après, il m'est difficile. Enfin, bon là, on sort du champ de ce dont on parle là maintenant, mais je crois que c'est essentiel. Après, effectivement, une fois passé le cap, je vous dis, il y a le déni. La première phase, c'est que c'est pas possible. C'est pas possible. C'est d'autant pas possible qu'il n'y a pas de corps. Donc, c'est le déni, la première phase. Après, il y a la colère. La colère, ça, c'est une phase qui est importante parce qu'on peut travailler sur la colère. Là, on peut corporifier la colère. Donc ça, cette phase-là, elle est importante pour nous. Et après, il y a le marchandage, c'est-à-dire quelque part le pourquoi lui, pourquoi, etc., etc. Dans une autre phase qui est plus intellectuelle, où on n'a pas trop d'action. Et après, il y a la phase de dépression, où là aussi, on peut avoir une porte d'entrée sur les sensations. En fait, quoi qu'on fasse, on a tous des pratiques différentes, dans des cadres différents. Il suffit de se rappeler que l'approche sensorielle est directe, en fait, parce qu'elle rentre dans le corps. C'est pour ça qu'elle est intéressante. C'est qu'on bascule carrément dans une incorporation des choses qui viennent de l'extérieur, en fait. Donc, on les intègre, on les ingère, on les digère. Et là, on a beaucoup de choses à faire. Dès que vous êtes en présence, d'une manière générale, en quelques circonstances que ce soit, en dehors de ce que je vous ai dit, de l'urgence où là, il n'y a rien à faire qu'à être là. Dès que vous percevez une faille, c'est-à-dire que ça part dans une émotion, il suffit juste d'autoriser ça. Et après, vous n'avez plus rien à faire. C'est ça qui se passe, c'est ça qui est guérisseur, en fait. Après, on est bien au-delà de commencer dans le corps. On n'en a rien à faire de ça. Et surtout, on n'en a rien à faire de le savoir, ce qui se passe dans le corps. Ce n'est pas notre propos. Ce qui compte, c'est ce qui se passe. C'est qu'il se passe quelque chose. Pardon. C'est qu'il se passe. Qu'il est en train de se passer, là, quelque chose. Et c'est simplement ça. Parce qu'en fait, si vous voulez, globalement, le schéma est le suivant. La personne, par exemple, est en train de raconter un truc, puis il y a un trouble. Vous sentez qu'il y a une raideur, vous sentez qu'il y a les yeux, les mains. Laissez aller là-dedans. Autorisez-vous à aller voir. Parce que là, le réflexe, c'est la retenue, de ne pas montrer. La conformité, c'est de ne pas montrer ce que l'on ressent. Donc, les gens sentent parfaitement qu'il se passe un truc là. Et ils arrivent à le maîtriser. Le problème, il est là. Et pourquoi est-ce qu'ils le maîtrisent? Parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas l'autorisation de se laisser aller à ce moment-là avec cette personne-là. Vous comprenez? Quand je dis que c'est juste une autorisation, ça veut dire que ce n'est pas autre chose. Je veux dire, OK, il se passe quelque chose. Je perçois qu'il se passe quelque chose. Allez-y maintenant. Ce n'est pas une incitation à le faire. C'est que c'est là. Vous comprenez? C'est pour ça que les mots sont différents. Le vocabulaire est un peu différent. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément nécessaire à ce moment-là de suivre un protocole où on va demander tatati, tatata, comment c'est ci et là. C'est avoir la perception et la certitude que la personne qui est là, en face de nous, est en train de vivre quelque chose. Et par sa présence, le rassurer. Et par son autorisation, permettre, l'encourager à ce qu'il vive ça. Voilà. En gros, si on peut résumer les choses, ce serait ça.
Et est-ce que tu as l'expérience des femmes qui ont accouché et qui se retrouvent seules, sans visite, avec toutes les peurs d'être contaminées, etc. Pas de peur.
Ah non, pas du tout. Non, non, là, je ne peux pas parler de ça. Oui, ça aussi, c'est un truc dont on ne parle pas, mais il y a tellement de facteurs qui font de petites cases.
Poussées qui ne pourront pas avoir lieu.
Ouais. Voilà. Oui, non, c'est sûr. Oui, je pense qu'il y a également quelque chose. Ce n'est pas mon champ. Je n'ai pas d'ouverture là-dessus, là, en ce moment, ici. Mais effectivement, c'est... Cette situation impacte tout le monde d'une manière générale, de toute façon, quoi. Et dans des moments, effectivement, comme la mort ou la naissance,
ouais,
où la tradition veut qu'on soit entouré, là, c'est un énorme choc, quoi. C'est un énorme manque, quoi.
Oui, puis avec toutes les incertitudes, parce qu'au début, on disait, parce que j'ai une fille qui va accoucher bientôt, mais voilà, les pères peuvent être là, et puis maintenant, ils ne peuvent plus être là. Même les chirurgiens qui opèrent n'ont pas le droit d'être présents à la clinique. Enfin, c'est...
Ouais, ah non, mais c'est troublant. Hein. Et en plus, par rapport à l'invisible, par rapport à une probable présence de quelque chose qui est invisible. Quoi. C'est ça qui est... Moi, je suis sidéré par ce qu'on vit, parce que quoi faire, quoi. Je veux dire, c'est vraiment, on est
soumis,
on est dépouillé de toute forme de réaction, parce que il se peut qu'il y ait quelque chose. Il se peut qu'il y ait quelque chose. Donc effectivement, ça impacte beaucoup de secteurs de la vie, effectivement.
Est-ce que je peux intervenir là? Dominique, oui, j'ai vécu là il y a 15 jours le décès de ma belle-mère en EHPAD dans une situation un peu particulière. Elle était très affaiblie les derniers jours et puis l'EHPAD, le Covid étant passé par là, ben, elle a été aussi infectée. Elle était dans un EHPAD en Ardèche et c'était au tout début du confinement et les mesures n'avaient pas été prises. Et le médecin qui était dans cet établissement, avec le directeur d'ailleurs, n'avait pas les mêmes visées, les mêmes vues. Et chacun a pris peur de leur côté. Et le médecin a dit à l'interlocuteur qui était la fille de ma belle-mère, quoi, ma belle-sœur, lui a dit « Restez chez vous, ne venez surtout pas ». Et en même temps, il lui annonçait que la mamie n'en avait pas pour longtemps, mais sans doute qu'il était aussi en panique, et d'ailleurs, ça s'est confirmé après, le directeur de l'établissement aussi, c'était au début du confinement, à tel point que ma belle-sœur et mon beau-frère n'ont pas du tout voulu mettre les pieds, ni ils étaient tétanisés par la peur, et lorsqu'elle est décédée, mon beau-frère est allé juste choisir le cercueil, mais il a dit qu'il faut faire au plus vite, il était pressé de terminer la chose, et la veille j'avais entendu Boris Cyrulnik et puis j'étais convaincue moi un peu du contraire, qu'il fallait au contraire ne pas se précipiter pour mettre le cercueil dans la tombe, comme ça, il parlait même d'un quart d'heure et tout. Et donc, j'ai été amenée à préparer un semblant de cérémonie. Ma belle-mère était d'origine chrétienne. Donc, voilà, j'ai bricolé quelque chose. Et les autres enfants disaient, ça sera vite fait, parce qu'ils avaient très, très peur. Il ne fallait pas toucher le cercueil. Il fallait pas. Il y avait maintes et maintes recommandations. Et la peur nous fait adopter des comportements... oui, mal placé, quoi. Et du coup, j'avais dit à chacun de préparer, j'avais un peu, oui, dit aux gens de préparer quelque chose. Nous étions que 10 à la cérémonie, il y avait ses 3 enfants et ses conjoints, et 3 petits-enfants. Et finalement, moi, j'ai volontairement bien pris le temps en mettant une chanson, en me déplaçant autour du cercueil. Et les pompes funèbres, finalement, qui avaient mis un petit peu leur veto et leurs obligations, ont été très, très conciliants, en fait, et nous ont bien laissé le temps. Et ça a duré presque 3 quarts d'heure. Et finalement, moi, j'ai inventé j'ai proposé des rites, poser une bougie, poser des fleurs qu'on était allé chercher dans les champs puisque les fleuristes étaient fermés. Mmh. Et finalement, la cérémonie a eu lieu et je crois et ils ont été apaisés, quoi.
Bien sûr, c'est une excellente chose. Mais encore une fois, tout ça, ça se fait à l'ombre de la peur. Mmh. À l'ombre de la peur, quoi. Tu vois, c'est ça qui est en train d'envahir le monde en ce moment. C'est la peur.
Oui.
Face à... On a vécu des périodes où on n'était plus concerné, on n'a plus de prédateurs, les maladies, on a imaginé qu'on pouvait contrôler tout ça, etc. Et là, il apparaît un truc qui remet tout en question, quoi. Et cette peur, elle est profonde. Encore une fois, c'est voilà quoi, c'est l'ennemi invisible, quoi, le truc qui peut te détruire. Et je sais pas ce qui va se passer par rapport à ça et comment on va sortir de là. Alors après, si je sais en même temps, parce que j'en ai parlé un petit peu au début, la seule façon d'être acteur dans ce que l'on vit là. C'est d'être maître de son immunité, c'est-à-dire justement de dépasser la peur, puisque la peur, comme je vous ai dit au tout début, le stress provoque une baisse considérable de l'immunité. Donc la seule chose que l'on puisse faire, en dehors des choses qu'il faut le faire aussi pour les autres et pour soi-même, de se protéger un minimum, c'est de ne pas craindre, de façon à être maître de son immunité totale. C'est ça la clé. Rappelez-vous, hein, il est mort de peur. Il est mort de peur. Et bon, j'ai d'autres histoires qui pourraient confirmer ça encore. Voilà, c'est vraiment notre. On est en équilibre et il suffit de que la peur vienne nous bouleverser cet équilibre pour qu'on n'ait plus les ressources, en fait, d'affronter ce qui nous agresse en termes de pathologie.
Bien. Est-ce qu'il y a encore des questions pour Didier ? Non. Ben, merci beaucoup. Merci infiniment. Hein. C'était encore passionnant.
Ben, c'est un peu particulier. Hein. Je veux dire, je sais pas ce qui m'a poussé à proposer un truc comme ça, mais je sens et je pense que vous allez réfléchir au même titre que moi à ça, parce que ça nous met dans cette réalité et je pense qu'on a quelque chose à faire aussi avec ça, avec ce qu'on sait faire dans cette période-là. Donc je vous remercie à tous de m'avoir écouté et puis à bientôt pour de nouvelles aventures.
Ouais. Merci.
Merci. Merci. Merci.
Et merci beaucoup à tous, hein, tous les participants, super.
Ciao.
Ciao.
Allez, bonne soirée, ciao. C'est le soir chez toi, hein, Didier.
Allez, merci. Il est l'heure de... À bientôt.
Ouais. Ciao.